On arrive à la huitième heure de la Bible en 24 heures, et ça correspond en fait à la fin de ce qu'on appelle les livres historiques. On a vu la dernière fois les livres de Chroniques, Rois et Samuel, dans l'ordre inverse. Et là, on arrive au livre d'Esdras, de Néhémie et d'Esther. Alors, vous vous souvenez que à la fin du deuxième livre des Chroniques, on apprenait qu'il y avait eu un grand événement dans la vie du peuple juif. Quel était cet événement ? Et avant d'être emmené en captivité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le royaume de Saül, après David, après Salomon, et après ça, qu'est-ce qui s'était passé? La division du royaume avec Roboam, le fils de Salomon, qui était devenu, qui régnait sur Juda, et Jéroboam, qui régnait sur Israël. Ils se sont séparés. Et finalement, c'est ce que tu disais, il y a eu l'enlèvement. Ils ont été emmenés en captivité par... Alors, vous vous souvenez, il y a deux, trois choses à savoir pour bien organiser ses pensées sur cette période. Il y a eu Israël, donc c'était l'État, le royaume du Nord, qui regroupait 10 tribus, pardon. Et dont la capitale était Samarie. Ils ont été emmenés en captivité, grosso modo, on dit en 721 avant Jésus-Christ. Et c'était l'Assyrie qui les a emmenés en captivité. Et puis le royaume du sud, donc Juda, qui recoupait deux tribus, Juda et Éphraïm, a été emmené en 586 avant Jésus-Christ par Babylone en captivité. Alors, on verra mieux quand on étudie le livre de Daniel, un des plus importants livres au niveau historique de la succession des royaumes à l'époque, que l'Assyrie, c'était un des premiers royaumes, et puis c'est devenu Babylone. C'est Babylone qui a remplacé, au point de vue de la domination mondiale. Ensuite, ça a été les Mèdes et les Perses. Et puis, ça a donné lieu à l'Empire d'Alexandre. Les Grecs sont venus à l'apogée de leur pouvoir. Et puis, ça a été, à la suite de ça, les Romains qui ont repris la domination mondiale par leur empire. Et ce qui est intéressant, c'est justement, on le verra en étudiant Daniel, que ces nations, ces empires, ont fait l'objet de prophéties qui se sont vérifiées, ils ont fait l'objet de descriptions, mais on y reviendra en temps voulu quand on étudiera Daniel. Donc, c'est Babylone et l'Assyrie, en fait, c'était dans la Mésopotamie, c'est-à-dire la région entre les deux grandes rivières du Tigre et de l'Euphrate, ça correspond un peu à l'Irak actuel. La Syrie, c'était la partie nord de la vallée du Tigre et de l'Euphrate, et au sud, à 500 km, où disons il y avait la Babylone, c'était la capitale de l'Empire babylonien, qui était à 500 km au sud de la capitale de l'Empire assyrien, qui s'appelait comment ? Ninive. C'était là aussi qu'un autre prophète bien connu, Jonas, a dû aller prêcher. Donc, savoir que voilà, Israël, Juda... Israël, donc, c'est en 721 avant Jésus-Christ qu'ils sont emmenés en exil, et Judas, c'est en 586. En fait, quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y a eu des... c'était pas aussi simple. Il y a eu des séries d'attaques sur de sièges d'Israël et de Juda. Un roi qui a joué un grand rôle, et on le voit dans le livre de Daniel, c'est le roi babylonien qui s'appelait Nebuchadnezzar, ou en français on dit des fois Nabucodonosor. Quelqu'un a déjà entendu ce nom ? C'est le même. Lui, c'était un fils d'un grand général, Nabopolassar, qui a battu l'empire assyrien à Ninive. Il a aussi combattu à Carchemish contre l'Égypte, une ville qui était située sur l'Euphrate. Et là, il a battu le pharaon qui s'appelait le pharaon Necho, N-E-C-O. Et ainsi, il a assis la puissance mondiale de Babylone. J'ai dit que Judas était en 586. En fait, ça a pris quand même une vingtaine d'années à ce roi pour faire tomber Jérusalem et emmener le peuple en captivité. En 606, vous notez ou vous notez pas, c'est juste pour vous donner un arrière-plan pour vous montrer que ce n'était pas des choses linéaires, mais qu'il y avait des allées et venues. Ce Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar a conquis ou a dominé le roi Jéhoiakim, qui était un des rois de Juda. Il avait pris tous les trésors du temple pour les ramener à Babylone, et il avait emmené des jeunes nobles, dont le futur prophète Daniel, en captivité à Babylone à ce moment-là. Il avait remplacé Jéhoiakim par un autre roi qui s'appelait Jéhoiakin. Donc ça devient subtil. Il faut faire attention aux orthographes. Il avait pris les trésors du temple parce qu'en fait, typiquement, un roi qui battait dans une bataille un autre peuple emmenait les dieux, les idoles de ces peuples-là, de ce royaume qu'il avait battu, qu'il avait conquis. Mais il ne trouvait pas, bien sûr, d'idoles dans le temple. Il n'y avait que les ustensiles qui servaient au culte de Yahweh, de Jéhovah, de l'Éternel, qui étaient en or et qui représentaient, bien sûr, quelque chose d'intéressant pour eux. Mais s'il y avait eu des idoles, sans doute qu'ils auraient peut-être laissé le trésor en place, on n'en sait rien. Moi non, encore moins. Il est revenu en 597, prendre le reste des trésors, et puis il a emmené le Jéhoiakim en question qu'il avait installé, il l'a pris. Il a pris une dizaine de milliers de personnages, de cadres, de personnes qui faisaient vivre un peu l'état de le royaume de Juda. Il a mis en place, toujours à Jérusalem, une personne qui s'appelait Matania, qu'il a renommé Sédécias. Sédécias, ça veut dire l'Éternel et justice. Vous savez qu'en hébreu, les mots sont caractérisés par des racines. Et que là, on retrouve la racine SDC, SDK, Sédécias ou Sédécias. C'est la justice comme Zadok, Tzadok, c'est la même idée. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont emmené en captivité un dénommé Ézéchiel. Donc ça, c'était la deuxième vague d'attaque. En 586, qu'on retient pour simplifier les choses comme la date de soumission d'Israël, c'est là que de Jérusalem, c'est là qu'ils viennent finir le siège pendant un an et demi et qu'ils ont fini par brûler Jérusalem. Donc ça, c'est la date repère, sachez, c'est 586. En 581, ils sont revenus faire un tour. Ils ont encore capturé 745 personnes. Et ça, on en entend parler dans le prophète Jérémie 52. À la fin de Jérémie, on voit cette dernière attaque. C'est intéressant, c'est que on a dit qu'en fait la Bible c'était un système intégré de vérité, de révélation. et qu'en fait Dieu avait utilisé un système pour valider ce système intégré, pour nous prouver que ça venait bien de lui. Est-ce que vous vous souvenez quel était ce système? Très juste, on a parlé des prophéties. Comme Dieu est en dehors du temps, il voit le présent, le futur, le passé. Il n'y a pas de, différence à ses yeux. Et il peut authentifier ses messages en disant, ben voilà, moi je sais ce qui va passer dans 150 ans. Est-ce que vous en savez autant? Et des fois, il met au défi, on voit en lisant les prophètes, des fois il met au défi les hommes ou même... Le patriarche Job, il le met au défi de « est-ce que tu peux prédire l'avenir ?» etc. Donc encore une fois, les prophéties, c'est vraiment quelque chose de clé quant à la véracité de la Bible. Et en tant que chrétien, vous devez vraiment être confiant que la Bible est la parole de Dieu, parce qu'il n'y a aucun autre livre religieux, un autre livre sur lequel s'est fondée une autre religion importante, qui est des prophéties aussi véridiques, aussi nombreuses d'abord, et qui se soient vérifiées à la lettre. Alors, en effet, quand on regarde les trois grands prophètes qui étaient Jérémie, Ézéchiel et Daniel, on s'aperçoit, et même Ésaïe, Ésaïe et Michée notamment, la captivité de Juda à Babylone avait été prédite 100 années au moins plus tôt. On peut regarder dans Ésaïe. Ésaïe 39. C'est Ésaïe qui parle à Ézéchias, un des rois de Juda. Et il lui dit, voici que les jours viennent, verset 6 de chapitre 39, voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Puis le verset suivant montre l'égoïsme du roi Ézéchias qui dit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Autrement dit, après moi le déluge, mais au moins moi je suis tranquille jusque-là. Mais voilà une des premières prophéties donc de l'exil à Babylone. Alors qu'à l'époque, Babylone n'était pas le pays le plus puissant que connaissait Ésaïe. On peut regarder le prophète Michée, c'est un des petits prophètes. On les appelle petits non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que leurs écrits étaient moins nombreux, moins volumineux. Prophète Michée, c'est donc les petits prophètes, c'est avant les évangiles, à la fin de l'Ancien Testament, page 918. Fille de Sion, verset 10, du chapitre 4 de Michée, page 918, dans la Bible à la colombe. Fille de Sion, souffre et gémis. Comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu feras ta demeure dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone et là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Donc il y a la prophétie de l'exil et en même temps la prophétie d'un rachat. Jérémie, le prophète Jérémie avait prédit, fait la prophétie dans Jérémie 25, si vous voulez regarder, donc. C'est à gauche, vers les prophètes. Après, page 768, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leur faute, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Donc il y a cette prédiction d'une captivité qui va durer 70 ans. Et ça va se passer à la lettre. La captivité va commencer. On a dit qu'il y avait eu plusieurs vagues de déportation en captivité. La première, c'était en 606 avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor avait emmené Daniel notamment à Babylone. Ça, c'était en 606. Et alors là, il faut compter à l'envers, il faut retrancher 70 ans, puisqu'on compte à rebours vers la venue de Jésus-Christ. C'est en 536 avant Jésus-Christ que le retour va être autorisé. Donc pendant 70 ans. Ensuite, l'empire perse va succéder à l'empire babylonien. J'ai parlé tout à l'heure des Mèdes et des Perses. Le grand roi, ça va être Cyrus II, qui était le fils d'un dénommé Cambyse, un roi, et lui qui était né d'une mère qui était Mède ou Médique, et d'un père qui était Perse. Donc il était à la fois Mède et Perse, Médo-Persique. On parle des guerres Médo-Persiques en histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est passé en 6e, à une époque. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de pouvoir de Cyrus sur l'empire de Babylone, elle est décrite chez le prophète Daniel aussi, mais on sait qu'ils avaient en fait trouvé une façon d'envahir la ville sans vraiment faire de bataille. Ils avaient détourné le cours de l'Euphrate. Ils avaient pu ainsi rentrer en suivant le cours du fleuve directement par des grilles. Ils avaient pu directement entrer dans le palais sans avoir à faire de longs sièges ou de longs combats. Et il avait ainsi conquis la grande ville de Babylone, Cyrus. Et Dieu, qui ne cesse d'authentifier son message aujourd'hui encore, il va encourager. Daniel va aller montrer à ce grand roi qui arrive et qui vient de conquérir cette grande ville de Babylone. Il va lui montrer dans un ancien parchemin une prophétie du prophète Ésaïe qui parle de la façon dont il a conquis la ville et qui de plus le nomme spécifiquement. Il est question dans le prophète Ésaïe du roi de l'empereur Cyrus. Si vous voulez voir, regardez, page 714, c'est dans Ésaïe 44, versets 27 et 28. Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Si on continue, donc voyez qu'il est question de tarir le fleuve, de dessécher l'eau profonde. Ça correspond à la façon dont, en détournant le cours de la rivière, ils ont pu assécher le lit et ainsi entrer dans la ville forte. Et il parle de Cyrus, il l'appelle mon berger. Et puis il continue en disant, verset 45, 1 du chapitre 45, « Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite, pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. On peut imaginer la stupéfaction de cet homme de voir ainsi que son nom était connu par le Dieu de ce peuple qui est en exil ici, à Babylone, et que ce Dieu connaissait même la façon dont il allait entrer dans la ville forte. Du coup, on va voir que ça va tourner son cœur, il va réaliser qu'il y a vraiment un Dieu en Israël. Et il va favoriser le retour du peuple juif en terre promise. On peut continuer, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le créateur. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien? Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui fais la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice. Et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, parlant de Babylone ou quelle ville? Jérusalem, hein, c'est l'Éternel qui parle de sa ville. Il laissera partir mes déportés sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a point d'autre. Les dieux, les petits dieux, les faux dieux sont néants. Et donc c'est ce passage que Daniel montre à ce roi tout-puissant qui est... Aujourd'hui on dirait que c'est Obama. C'est l'homme le plus puissant de la terre, physiquement. Et il vient de voir qu'en fait, Dieu, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et maintenant, nous allons donc regarder avec cet arrière-plan. On va voir les trois livres que nous voulons voir ce soir, les derniers livres historiques. Donc, Esdras. Il faut savoir que, oui, Esdras, on pense que c'est lui qui était l'auteur des chroniques. Et ainsi, le dernier verset du livre des chroniques, du deuxième livre des chroniques, c'est pratiquement le premier verset de Esdras. On va lire le dernier verset des chroniques. « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » C'est-à-dire qu'il aille vers Jérusalem. Et au verset 1, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait... qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Et qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Puis il continue en disant qu'en fait tous ceux qui les entouraient les ont aidés en leur donnant des ressources en or, en argent, en biens, en bétail. Et verset 7, le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait sorti de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui en fit le compte pour Shetbatsar, le prince de Juda. Suit un décompte des biens, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, etc. Et puis au chapitre 2, il va être question des personnes qui sont montées ainsi, avec Zorobabel, verset 2. Josué, c'est pas le même que le successeur de Moïse, c'est un autre Josué. Et verset 64, l'assemblée tout entière était de 42 360 hommes. Donc, le récit d'Esdras, ça va embrasser les événements à peu près sur un siècle, de 538 à 440 avant Jésus-Christ. Ça commence donc à Babylone, qui vient d'être conquise par les Perses. Cyrus, qui vient de réaliser qu'il y avait un Dieu en Israël et qu'il devait aider son peuple à retourner et à bâtir le temple. J'aime bien l'expression « Dieu qui réveille l'esprit de Cyrus, Dieu qui réveille l'esprit de tout un tas de chefs de famille, de Juda, de Benjamin, des sacrificateurs, des Lévites. » Et donc, l'idée que Dieu peut réveiller l'esprit des hommes. Et Dieu peut causer le réveil. Le réveil se manifeste toujours d'abord par la repentance. Souvent on parle de réveil, des gens prient pour le réveil, aujourd'hui encore, et c'est très bien. Mais souvent on veut un réveil où d'un seul coup on se retrouve avec la puissance pour faire des tas de choses. Alors que la vraie puissance, elle est lorsqu'on reconnaît notre faiblesse, dans notre péché, qu'on le confesse à Dieu. Et c'est toujours ainsi que commence le vrai réveil, par la réalisation de l'horreur de mon péché et le désir de plaire à Dieu et de revenir à lui. Donc oui, j'ai dit que Esdras était sans doute l'auteur des livres des chroniques, du livre d'Esdras et même peut-être du livre de Néhémie. Il est intéressant de savoir que dans la Bible en hébraïque, il y avait seulement un livre qui s'appelait Esdras, qui regroupait Esdras et Néhémie. Dans la version de la Septante, qui était la traduction faite par des sages hébreux qui vivaient à Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui ont fait une traduction en grec parce que beaucoup des juifs ne parlaient plus l'hébreu mais seulement le grec, même en Égypte. Là, il y avait deux livres d'Esdras, Esdras 1 et Esdras 2. Et puis dans la Bible latine traduite par Jérôme, on appelait la Vulgate, là il y avait trois livres d'Esdras, et maintenant aujourd'hui on a l'histoire d'Esdras et puis le livre de Néhémie. Mais on pense que ce scribe qui était très, très cultivé, cet Esdras, c'était aussi lui qui a défini en fait le canon, c'est-à-dire l'ensemble des livres inspirés de l'Ancien Testament. On a, je ne sais pas si vous étiez là quand on a parlé de ce qui faisait un des critères pour savoir si un livre appartenait à, avait lieu d'appartenir à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament. On a dit qu'il y avait deux tests, deux caractères. Pour l'Ancien Testament, c'était quoi? Il fallait qu'il y ait un caractère poétique, caractère prophétique. Il fallait qu'il y ait, ce soit associé à des prophéties, soit la réalisation de prophéties, soit la déclaration de prophéties. Et pour le Nouveau Testament, on a vu qu'il y avait un autre test, et c'était quoi pour qu'un livre soit ait des chances d'être reconnu comme un livre inspiré dans le Nouveau Testament. Il fallait qu'il y ait une dimension, pas prophétique cette fois-ci, mais apostolique. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il avait été écrit soit par un des apôtres directement, soit sous la dictée d'un apôtre. Ainsi, Marc, on pense que son évangile est en fait l'évangile dicté par Pierre ou raconté par Pierre, et c'est lui qui a pris les notes. Mais c'est donc Esdras qui aurait défini les livres qui sont dans l'Ancien Testament, parce qu'ils sont inspirés. C'est, en fait, ça correspond à reconnaître l'aspect inspiré d'un livre. On ne décide pas de cette inspiration, on la reconnaît. Donc, on a dit en fait que les prophéties vont s'accomplir. Ils partent pour rétablir ce premier retour d'exil, donc sous la direction de Zorobabel, et qui comptait près de 40 360 personnes. La Bible est précise, c'est pas un livre de légende ou de fable, c'est un livre historique, et il y a des fois des comptes d'apothicaires avec des nombres très précis. On peut savoir combien il y avait de fils de Delaïa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, il y en avait 652, verset 60 du chapitre 2. Et toute cette précision nous montre que c'est un livre historique qu'on peut vraiment prendre à la lettre. Ils viennent pour reconstruire le temple. Et la première chose qu'ils font dans le chapitre 3, c'est de reconstruire l'autel des holocaustes, là où ils présentaient des sacrifices. Des animaux qu'ils offraient en les brûlant complètement ou en les brûlant partiellement, aussi des offrandes de céréales ou même des libations, c'est-à-dire des offrandes de liquide, de vin, d'huile, de farine. Ils commencent donc par rétablir cet autel. Et toujours intéressant de voir un peu, lorsqu'on parle du temple, du tabernacle, à quoi ça correspond aujourd'hui. Et cet autel, pour nous, à quoi ça peut correspondre à votre avis? Est-ce que vous avez un autel dans votre vie où vous présentez des sacrifices? Mardi matin, le groupe des hommes, on a réfléchi sur le psaume 50 où il est de question d'offrir en sacrifice à Dieu la reconnaissance, d'offrir notre louange. Et cet autel, quelque part, ça peut être notre culte personnel, ça peut être le temps qu'on passe avec Dieu. Et la première chose à veiller, sur laquelle il faut veiller, la première chose qu'il faut reconstruire si elle a disparu, si on veut cette relation juste avec Dieu, c'est cet autel, ce temps, ce lieu, cette habitude de passer du temps avec lui, dans la prière, dans la lecture de la parole, même dans la louange, seul, d'abord seul, et peut-être après en groupe avec d'autres. Une fois qu'ils ont rétabli l'Holocauste, ils vont mettre en place les fondations du temple. Apparemment, le temple qu'il reconstruisait, verset 12 du chapitre 3, ne correspondait pas, n'était pas aussi magnifique que le temple qui avait été détruit par Babylone, parce que ceux qui avaient connu la première maison, il est dit qu'ils pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Mais les autres se réjouissaient quand même, faisaient répandre une grande clameur. Et comme souvent, lorsqu'il y a un travail à la gloire de Dieu, il y a de l'opposition, il y a des adversaires de Judas et de Benjamin qui apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, chapitre 4, verset 1. Et ils s'approchent d'abord de Zorobabel, le gouverneur, qui est à la tête de ces 40 000 personnes, et ils proposent de les aider. Et ils disent qu'ils offrent des sacrifices eux aussi à ce Dieu, mais Zorobabel décline leur offre. Ce n'est pas à vous, verset 3, de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons seuls, nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces adversaires de Juda et de Benjamin. Peut-être qu'ils voulaient saboter le travail. Mais là, vu que Zorobabel refuse leur aide, entre guillemets peut-être cette aide, ils cherchent à décourager, maintenant qu'ils ont été rejetés, ils vont décourager le peuple de Juda, ils vont intimider ce peuple pour empêcher de bâtir. Ils vont même offrir de l'argent pour faire échouer les projets, ils vont peut-être acheter des architectes pour qu'ils fassent des bêtises, etc. Et ça va durer jusqu'à la fin de la vie du roi Cyrus, qui va être remplacé par le roi Darius, qu'on appelle aussi Assuérus. Ça, c'est souvent, il y a une corrélation à faire entre les noms perses, les noms qui étaient connus chez les Grecs et dans la Bible aussi. C'est toujours bon, lorsqu'on lit ces passages historiques, d'avoir un peu de accès à des aides pour s'y retrouver et ne pas être complètement perdu avec les noms d'un même roi qui peuvent être différents. Donc Xerxès ou Assuérus. Et ce... Assuérus, oui, je crois aussi, oui. Acte Xerxès. Ils écrivent une lettre à ce roi en lui disant que il y a ce peuple qui a été déporté et qui maintenant veulent bâtir ce temple imposant. Et verset 11, on a donc des récits, des textes qui sont rapportés. Donc il dit, c'est ici la copie de la lettre, verset 11, chapitre 4. La copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi, arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en restaurent les murs et en réparent les fondations. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, si ses murs sont restaurés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que finalement cela portera préjudice au roi. Donc il casse du sucre, il critique vivement. Et il est dit, ils encouragent le roi à retrouver dans les archives, montrer que cette ville a été une ville rebelle qui a porté préjudice au roi, aux provinces, et que si cette ville est rebâtie, ça va être terrible. Et le roi leur répond plus tard, verset 17-18, « La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi, j'ai donc donné l'ordre de faire des recherches. » Et on a trouvé que cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'est livré à la sédition et à la révolte. Il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve. Et donc, il a retrouvé le fait, oui, qu'il y a eu des problèmes avec le peuple de Juda. Et verset 21, conséquence, ordonné de faire cesser les travaux afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Et donc ces ennemis d'Israël, de Juda, vont faire arrêter les travaux. Et c'est plus tard que les travaux vont pouvoir reprendre. Donc il y a le roi, quelqu'un écrit au roi Darius, et on peut lire, voici la réponse que les hommes qui avaient repris la construction du temple, avec notamment l'encouragement du prophète Agée et le prophète Zacharie. Voici la réponse qu'ils nous ont faite, verset 11, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie. Il y a bien des années, un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais ils font référence donc à l'ordre donné, verset 13, par le roi Cyrus de rebâtir cette maison de Dieu. Et le roi Darius fait faire des recherches encore, verset chapitre 6, pour savoir ce qu'il en était. Il va dans la bibliothèque où l'on déposait les archives à Babylone et il retrouve un rouleau qui explique que la première, verset 3 du chapitre 6, la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre, maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondations, elle aura 60 coudées de hauteur, etc. De plus, tous les objets d'or seront renvoyés, qui avaient été pris par Nebuchadnezzar. Et il dit même que Darius, en fait, à la vue de ce décret de Cyrus, décide d'encourager maintenant la reconstruction du temple, et il va même donner l'ordre qu'on fournisse des ressources à cette équipe qui reconstruit le temple, la maison de Dieu. Verset 8, les frais pris sur le bien du roi provenant des impôts de l'autre côté du fleuve seront ponctuellement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, etc., devra être fourni. Et il donne un ordre, en fait, qu'on aide les Juifs, les enfants d'Israël, les enfants de Juda, à reconstruire le temple. Et il dit même, si quelqu'un s'oppose à cet ordre, verset 11, on arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper, et on fera de sa maison un tas d'immondices. Et donc, le gouverneur de la province située près de Jérusalem, Tatnaï, doit se plier à cela. Et finalement, la maison, le temple, est rebâti et il y a une grande célébration qui a lieu à la fin du chapitre 6. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, la volonté de Dieu finit par se réaliser. Il y a des obstacles, mais il va faire rebâtir le temple, comme il l'avait prédit par Ésaïe, avec la volonté de Cyrus de relaisser le peuple partir. Et Dieu aussi, on peut remarquer qu'il travaille avec un petit groupe. Les 40 000, c'est beaucoup. On verra par la suite qu'il y avait des plus petits groupes qui sont revenus pour travailler. Mais ça, c'est un principe. Dieu travaille avec un reste. C'est un terme qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. On a souvent tendance à vouloir des grands nombres de personnes, mais Dieu sait qu'il vaut mieux quelques personnes consacrées pour faire une œuvre que des foules de gens non motivés ou pas vraiment spirituels. Oui ? Non, 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 c'était un Perse. Oui. Mais là aussi, on voit comment Dieu peut se servir des païens pour accomplir ses œuvres. Comment il a donné. Cyrus non plus n'était pas juif. On voit comment il peut utiliser des personnes pour accomplir ses buts. La deuxième section, les chapitres 7 à 10, On va voir la réforme religieuse qui est mise en place par Esdras. On va simplement la citer comme ça. Avec l'appui d'Artaxerces. Et puis, Esdras lui-même va être appelé à regagner Jérusalem. Ça va être le deuxième retour, en quelque sorte, d'exil. C'était un scribe qui était versé dans la loi de son Dieu. Il va enseigner les écrits sacrés aux nouvelles générations d'Israélites qui ne les connaissaient même plus. Et on verra dans Néhémie qu'en fait, Néhémie 8:8, qui ne savait même plus lire l'hébreu. Mais encore une fois, Dieu préserve sa parole. Elle va être redécouverte en quelque sorte par le peuple qui est revenu sur Jérusalem après la construction du temple. Et donc il y a ce retour d'exil qui avait été une punition en fait de Dieu, qui avait laissé son peuple être discipliné par des nations païennes parce qu'il avait désobéi au commandement de Dieu. Suite à ça, Dieu a donné une période limite de 70 ans. Et après ça, il les fait revenir. Il y a un réveil spirituel qui caractérise. Il y a des fruits qui font tangibles. La reconstruction du temple. Et puis, on va voir maintenant dans Néhémie, ça va être la reconstruction des murailles. Et je crois que ce principe d'utiliser quelques personnes qui ont vraiment à cœur de servir Dieu, de bâtir un autel, de bâtir un temple, de protéger cette vie spirituelle, c'est un peu un type de ce que Dieu peut faire par les réveils. Et Dieu fait, au cours de l'histoire, il a réveillé son peuple qui s'endort dans le péché, dans les faux dieux, dans l'idolâtrie. Des fois, il doit juger, il doit envoyer en exil. Mais passons à Néhémie. Encore une fois, là, on va parler surtout de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie, le livre, va parler de ces 13 années de gouverneur. Il a eu un mandat de gouverneur du territoire d'Israël. Et c'est en fait le dernier écrit historique. La seule chose qui a été écrite après ça dans l'Ancien Testament, c'est la prophétie du prophète Malachie. Qui était Néhémie ? Néhémie, c'était un haut fonctionnaire. Donc, on tourne la page, on arrive page 486 ou dans Néhémie 1 et 2. Il servait à la cour du roi de Perse, Artaxerces, et il était en exil, mais en même temps, il montrait un témoignage, pas parfait, mais un témoignage irréprochable. Il servait le roi de Perse en tant qu'échanson. C'est-à-dire qu'il goûtait, les plats conservés au roi et ses boissons. Un métier à risque, surtout à l'époque, voilà. Et parce que le roi attendait de voir comment se passait votre digestion avant d'essayer de manger les mets qu'on lui préparait et qu'on lui présentait. Et il a servi ce roi qui au départ donc était, vous souvenez qu'il était contre, une fois qu'il avait été convaincu dans Esdras qu'il y avait danger avec le peuple des Juifs. Au départ, il avait fallu qu'on lui montre l'ordre de l'édit de Cyrus pour qu'il devienne favorable. Mais peu importe, Néhémie, je veux dire, était un homme qui était sincèrement touché par ce qui se passait à Jérusalem, de savoir que il y avait des Juifs qui avaient été rescapés, mais qu'il y avait toujours une muraille en brèche, que les portes étaient brûlées par le feu. C'était des hommes qui étaient revenus de Juda après le premier retour d'exil. Et il dit, lorsque j'entendis verset 4, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites. En confessant les péchés des Israélites, nous péchons contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, etc. Et il se souvient des paroles dites à Moïse, « Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples », verset 8. « Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même, bien même, vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Et donc il a à cœur vraiment de pouvoir rentrer à Jérusalem et de rebâtir la ville. Et c'est le roi qui remarque, pendant qu'il fait son jeûne et qu'il est dans cette tristesse au chapitre 2, il remarque qu'il a le visage triste et lui dit « Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et là, il est saisi d'une grande crainte, mais il est courageux. Il répond au roi « Que le roi vive éternellement », verset 2, 3 du chapitre 2. « Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi lui demande « Au fait, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, « S'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « S'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, etc. » Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et donc on voit cet homme qui a vraiment à cœur Jérusalem, la ville de son Dieu, de son peuple, qui travaille pour ce roi païen, comme si c'était pour servir le Seigneur, qui a établi une relation de respect, au point que le roi remarque qu'il est triste lorsqu'il a ces mauvaises nouvelles de l'état, du triste état de Jérusalem, et qu'en fait, vous avez peut-être remarqué qu'à plusieurs moments, le roi lui parle et tout de suite il est dit « Je priais le Dieu des cieux ». Avant de répondre, il dépend de Dieu, il cherche la volonté de Dieu et Dieu lui donne la faveur de ce grand et redoutable personnage et il a le mérite de reconnaître aussi que c'est pas ses talents de diplomate ou son travail sérieux. Il dit « J'ai cette faveur parce que la bonne main de mon Dieu et sur moi. » Et il va même aller pousser le bouchon un peu plus loin, il va demander au roi des lettres de passage, des laissez-passer, il va demander aussi des ressources, et le roi va signer tout ce courrier qui fait que les responsables politiques du lieu vont être obligés de l'aider dans sa reconstruction de la ville et de ses murailles. Une ville sans murailles, à l'époque, c'était une ville faible parce qu'elle pouvait être envahie facilement. Et donc, la première chose à faire, c'était de bâtir la muraille. Alors, il va y avoir de l'opposition, comme toujours, lorsque l'on répare pour l'œuvre de Dieu. Il y a Sambalat, le Horonite, Tobia, le serviteur Ammonite, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Mais là encore, Dieu va prévaloir. Et on sait qu'ils vont bâtir leur ville. Et tout le monde va s'y mettre. Non seulement les bâtisseurs, mais tout le monde va se mettre au travail. Et une caractéristique de ce travail, c'est que d'un côté, ils auront l'épée, d'une main, ils auront l'épée pour se défendre des attaquants, et de l'autre, ils auront la truelle. Néhémie va faire preuve de persévérance, de discernement, et les murailles vont être reconstruites en 52 jours seulement. Ça, c'est dans Néhémie 6,15 que c'est précisé. L'idée d'avoir ces instruments de travail, les truelles, et de l'autre l'épée, ça nous ramène à notre combat, l'état de notre vie aujourd'hui, et le combat spirituel dont il est question dans Éphésiens 6,10, où Paul nous explique que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est-à-dire des êtres angéliques, mauvais, maléfiques, qui appartiennent au royaume de Satan. Et il nous encourage à prendre les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme, prendre à nos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les bonnes dispositions de l'évangile de paix à nos pieds, prendre le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les traits enflammés du malin, tous les motifs de découragement, on peut les arrêter avec le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et de prier en tout temps. On voit aussi que toute véritable action de l'Esprit de Dieu, c'est sa sortie de se repentir de l'humiliation. On a vu comment Néhémie reconnaissait que lui-même et sa famille avaient péché, alors que je pense qu'il n'était pas le pire des pécheurs qui avait été déporté et qui vivait en déportation. Mais ils vont reconstruire la muraille, et ça c'est les chapitres 1 à 7, et puis les chapitres 8 à 13, on va voir la restauration spirituelle du peuple. Il va y avoir une instruction dans la parole. Esdras lui-même va relire le scribe au chapitre 8, lecture solennelle de la loi par Esdras, dont on vient de parler. Et il va y avoir un désir d'obéir à l'alliance. Ils vont célébrer la fête des huttes, qu'ils n'avaient plus célébrée depuis longtemps. Ils vont jeûner, ils vont confesser leurs péchés. La communauté va s'engager à faire des sacrifices, à plaire à Dieu. Ils vont prendre des résolutions pour le chapitre 10, pour l'entretien du culte. Et ils vont commencer à se réinstaller dans le pays, à Jérusalem et dans le reste du territoire. Et donc, ils vont réobéir, renouvellement de l'alliance. Il y a une restauration spirituelle qui va se passer. Et puis, ça c'était le dernier livre d'histoire à proprement parler. Il reste en fait quand même un livre très important que vous connaissez bien si vous êtes participé à l'étude biblique du groupe des femmes le dimanche, le livre d'Esther. Esther, c'est un livre où on voit l'intervention encore une fois providentielle de Dieu. Il peut y avoir des événements contraires, des choses terribles, mais on voit comment Dieu préserve son peuple. Pourquoi est-ce qu'il préserve son peuple? Parce que Jésus-Christ va arriver par ce peuple juif. Le contexte historique, c'est cet empereur de Perse, Assuérus ou Xerxès, qui est dans sa résidence d'hiver à Suse, qui est en train de faire des plans pour attaquer la Grèce. Et il va y avoir une bataille à Salamine, dont il n'est pas question dans la Bible, mais on recoupe avec l'histoire en 479 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, a été couronné, c'est là qu'après cette bataille que Esther va remplacer l'impératrice Vashti. Alors l'histoire, vous la connaissez, j'imagine, tous un peu, plus ou moins. Le roi Assuérus, qui règne sur un immense empire de l'Inde à l'Éthiopie, sur 127 provinces, il fait une fête et il organise un grand banquet avec tous les dignitaires. Le vin coule à flot et à un moment, il décide de montrer à tout le monde la beauté de sa femme qui était la reine Vashti, et il l'invite à venir se présenter devant lui. Mais elle n'en a rien à faire, elle n'a pas envie de venir, et elle refuse. Et la société très machiste à l'époque se dit que si on laisse faire une telle chose, ça va être grave. Toutes les femmes vont se rebeller contre l'autorité de leurs époux. Et verset 17 du chapitre 1, le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain. Donc il s'agit de mettre court à cette fâcheuse expérience. Donc le roi la destitue et il va falloir remplacer la reine. Et là, il va y avoir un grand concours de Miss, sans Madame, comment elle s'appelle, Madame de Fontenay, mais il va y avoir l'équivalent. Et qu'on recherche, verset chapitre 2, qu'on recherche pour le roi des jeunes vierges d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de ce royaume, la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, et la jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vashti. Et il y avait à Suse une jeune fille qui s'appelait Hadassa, en grec, en hébreu, ou Esther, c'était le nom, je crois, plutôt perse. Et cette jeune fille vivait avec son oncle, donc, qui était son tuteur, un dénommé Mardoché. Mardoché, il était benjaminite, c'est-à-dire qu'il descendait du roi Saül. Et que vous souvenez qu'à un moment on avait presque détruit tous les descendants de Saül, mais David avait fait grâce à un certain Méphibosheth et à d'autres benjaminites. Donc en fait, ce Mardoché, il était le fruit de la grâce de David. Et c'est l'histoire, donc vous souvenez, la jeune fille est prise en estime et en amour par le roi. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, elle gagna sa faveur et il mit sur sa tête la couronne royale. Mardoché, qui avait été honoré en recevant une charge de concierge royal, empêche deux eunuques d'assassiner le roi. Il assiste à une conspiration. Il fait savoir au roi par Esther qu'il y a une conspiration. Et verset 23 du chapitre 2, on entreprend une enquête qui aboutit. On pendit les deux eunuques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Et puis il y a un autre personnage qui apparaît. Un certain Aman, fils de Hammedata, qui était l'Agagite, c'est-à-dire qu'il descendait du roi Agag. Vous vous souvenez que le roi Saül avait reçu l'ordre de détruire tous les Amalécites, et notamment le roi Agag, mais qu'il l'avait gardé vivant. Ce Aman était en fait un fruit de la désobéissance du roi Saül. On a dit que Mardoché, c'était un fruit de la grâce de David. Là, ce Aman qui va s'opposer au peuple juif, il était très en colère parce qu'il avait été élevé par le roi à une position de responsable en dignité, au-dessus de tous les princes de son rang. Et les gens devaient s'incliner devant lui. Le roi en avait donné l'ordre. Et pourtant, Mardoché lui refusait parce qu'il ne voulait s'incliner que devant le Dieu d'Israël. Et ça avait mis cet homme en fureur. Et il avait eu le plan, il savait qu'il était juif, et il avait décidé d'exterminer tous les juifs. Donc il complote contre le roi, et il fait décréter par le roi, il lui parle au verset 8 du chapitre 3, « Il y a un peuple à part, ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples dans toutes les provinces de ton royaume, leur loi les distingue de tout peuple, ils n'exécutent point les lois du roi, il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. » Donc ça c'est intéressant, c'est les premières réalisations où on voit comment Satan va utiliser l'antisémitisme. Il va mettre une haine dans le cœur de cet homme pour détruire le peuple juif. Encore une fois, pour empêcher, c'est Satan qui guide ça, pour empêcher l'arrivée de Jésus, du Sauveur. Et le roi dit, bon, ben d'accord, il n'y a pas de problème, envoie des courriers, fais ce que tu veux, il lui fait confiance. Et là, c'est la consternation, bien sûr, chez les Juifs. Et Mardoché parle à Esther et lui dit qu'en fait, elle tient la destinée de son peuple entre ses mains. Et il lui dit qu'il faut qu'elle... Verset 13 du chapitre 4, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'est intéressant, on voit que Mardoché a l'intuition qu'en fait, c'est pas par hasard qu'elle se retrouve dans cette position, qu'elle a gagné le concours de Miss Perse, et que si elle se tait, Dieu va pouvoir sauver le peuple juif d'une autre façon. Il a cette confiance, il a cette connaissance du Dieu d'Israël, et il dit à Esther que c'est à elle d'agir maintenant. Et donc Esther va aller voir le roi sans qu'il l'invite. C'est un risque pour sa vie, parce que s'il décide qu'il ne voulait pas la voir, il pourrait la faire périr. Mais elle est prête, pleine de courage, elle dit « Si c'est pour ma perte, je périrai. » Et elle va voir, elle va parler au roi, et elle lui demande d'inviter Amam à un festin. Le roi est prêt à lui donner jusqu'à la moitié de son royaume. Et donc, elle fait venir ce roi. Et là, elle fait venir Amam. Lui, il pense que tout va bien pour lui. Il est invité par le roi et la reine en privé. Et il pense que on va lui faire des honneurs encore plus grands. Et il a l'idée de faire, sous l'influence de sa femme et des intimes, de faire dresser une potence haute de 50 coudées. La coudée, c'est presque quelque chose de 20 mètres, 25 mètres de haut. Et demain matin, tu diras au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller au joyau, au festin avec le roi, la chose, plus à Aman, et il dressa la potence. Mais, verset chapitre 6, Dieu utilise l'insomnie d'Assuérus. Le roi n'arrive pas à dormir. Alors, pour dormir, il se fait apporter, verset 1, le livre des mémoires, les chroniques, et on en fait la lecture au roi. Il ne peut pas regarder la télé, il ne peut pas prendre un livre, il se fait lire le livre le plus ennuyeux possible, sans doute, pour retomber dans le sommeil, les chroniques de l'Empire. Et là, justement, il est question de ce Mardoché qui a révélé le complot des deux eunuques et qui a sauvé ainsi le roi Assuérus. Et il se demande, mais au fait, est-ce qu'on n'a jamais récompensé cet homme? Et à ce moment-là, Aman arrive et le roi, ça c'est comique, c'est le sens de l'ironie de Dieu, verset 6 du chapitre 6. Le roi lui demande à cet homme qui était comme son premier ministre, que faire à un homme que le roi désire honorer? En son fort intérieur, Aman se dit, à qui donc le roi désirait-il faire honneur plus qu'à moi? Aman dit au roi, un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, que l'on conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on a fait à l'homme que le roi désire honorer. Et donc il y a ce quiproquo, Mardoché qui pense que tous ses honneurs c'est pour lui, et en fait, Aman pense que ses honneurs c'est pour lui, et la chute c'est lorsque le roi lui répond à Aman, vite va prendre le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit, et agit ainsi en faveur du juif Mardoché. Le sang ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. Et donc, on imagine la stupéfaction, la consternation, le choc, il y a de quoi mourir de crise cardiaque. Et Aman est dénoncé par Esther, on va devoir terminer rapidement, il est dénoncé par Esther au roi comme voulant tuer tout le peuple, et en fait c'est lui qui va finir sur la potence qu'il avait dressée pour son adversaire. Un édit va être proclamé en faveur des juifs, et la vengeance des juifs, ça va donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de Pourim, qui désigne le sort ou les lots. Et verset 25 du chapitre 9, lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot pour, ou lot, ou sort. Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par Salé, de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance. On célébrerait donc deux jours de fête. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la fête du Pourim. Et Mardoché était devenu le premier ministre du roi Assuérus. Grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. L'histoire qui ferait un film est patente. C'est intéressant, je crois pas qu'il y ait de film, il y a des dessins animés, mais ça pourrait faire un super film d'action. On pourrait même demander à cette dame qui fait les Miss France de jouer le rôle. Pour sélectionner Esther. Esther s'est offert pour mourir pour son peuple. Christ s'est offert lui-même pour mourir pour nous. Israël aurait pu disparaître à plusieurs reprises dans l'histoire, mais Dieu le maintient. Comme on l'a vu au XXe siècle, Hitler était un peu le Aman qui a voulu détruire le peuple des Juifs. Et qui en fait a permis que son intervention dans l'histoire a fait qu'il y a eu une telle réaction mondiale que maintenant Jérusalem, le peuple juif a pu retourner en Israël. On voit comment Dieu Dieu continue de diriger l'histoire malgré les événements, tout ce qui semble échapper au contrôle des hommes. Je crois que des fois il peut laisser partir les choses, mais il a toujours la puissance de téléguider, de recouper les choses et de faire que sa volonté s'accomplisse. Et ça, c'est à travers toute cette période qu'on a vu, on voit comment on en reparlera lorsqu'on on parlera des prophéties de Ésaïe, Jérémie et Daniel, Ézéchiel. Comment Dieu garde le contrôle de l'histoire. C'est lui le patron. C'est pas nos grands hommes, c'est lui qui dirige l'histoire. Esther a été questionnée parce que le mot de Dieu n'est pas mentionné dedans, mais pourtant il est présent sous forme d'acrostiche. Si on prend certains passages, il y a les premières lettres qui décrivent le mot de Dieu, le nom de Dieu, Yahweh. Il y a aussi des lettres à équidistance qui représentent le nom de Dieu dans le texte original, dans le texte masorétique. On a vu que Mardoché, c'était un descendant de la grâce, un résultat de la grâce de David, qui n'avait pas supprimé tous les fils de Benjamin. Et que Aman, au contraire, c'était un descendant de la désobéissance de Saül, un résultat de la désobéissance de Saül. Une raison aussi, certains pensent que peut-être Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther parce que Dieu avait averti son peuple que lorsqu'il serait contraint de le punir en raison de ses désobéissances, il cacherait sa face. Ça, c'est dans le Deutéronome 31, 16, 18. La face de Dieu est cachée, mais on voit sa main qui continue d'agir dans ce livre d'Esther et dans ces trois livres. Encore une fois, c'est un merveilleux passage, trois livres sur la souveraineté de Dieu dans l'histoire, qui peuvent nous rassurer que, quoi qu'il advienne dans l'histoire, Dieu mène l'histoire du monde. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Mardoché, c'est le prénom Mordécaï en hébreu, qui est un prénom assez répandu, parce que c'était un des sauveurs du peuple juif, Esther surtout. Vous qui faites le livre d'Esther, vous avez des remarques particulières ou des choses que vous avez soulignées dans cette histoire? Non? D'accord. Je termine par un petit mot de prière. Seigneur, merci pour ces récits qui nous montrent que tu es le souverain, tu es Dieu souverain, tu es l'éternel, tu contrôles l'histoire. Seigneur, dans les moments où, comme en ce moment, où on a crise économique, financière, des peurs plus ou moins latentes ou exprimées, Seigneur, merci que tu es fidèle à ton peuple, même si des fois ton peuple n'est pas fidèle. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, aide-nous à être des instruments de réveil, aide-nous à nous repentir et à te glorifier par nos vies. Accompagne chaque personne, Seigneur, et que ces enseignements soient source d'encouragement et nous fortifient, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.